RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, content d'être avec vous comme tous les jours pour discuter, pour débattre au 32-16, avec on vous attend en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Il va y avoir matière, alors puis alors aujourd'hui les amis, on a un trio, on a un brelan d'as aujourd'hui.
De choc.
On a Barbara Lefebvre qui est avec nous, enseignante en reconversion, bonjour.
Ouais, bonjour à tous.
Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire.
Salut
bonjour.
Alain, bonjour à la France profonde.
Étienne Liebig, éducateur, bonjour Étienne.
Moi, as, Valérie. Valette
Pique. Vu la couleur de ton t-shirt.
Brelandos, tu veux dire, oui.
De quoi va-t-il être question aujourd'hui dans les GG? Tout à l'heure à 11h20, on vous a préparé un GG. C'était match autour de la transparence sur les salaires. 8 Français sur 10 estiment que être transparent sur les salaires dans les entreprises, ça peut aider à réduire les inégalités, à mieux prendre conscience de ce qui se passe dans une boîte, etc. Alors, est-ce que vous êtes pour cette transparence des salaires dans les entreprises? 11h20 pour en parler. À 10h, la CGT est-elle en train de perdre le match social là en ce moment, le flop de la mobilisation hier? Et puis le nombre de stations-service là bloquées qui diminue, on réapprovisionne petit à petit. Venez en discuter avec les GG.
Sauf celle que par lesquelles.
Mais ça c'est parce qu'ils reconnaissent, hein. Quand t'arrives en scooter, il y a ces liébigs. Ah plus rien.
J'ai un manque de peau incroyable.
Je suis un peu comme Étienne. Moi les chiffres qui sont balancés, 30%, etc. Je sais pas comment ils sont faits.
Moi ça fait 4 jours que je trouve pas d'essence pour mon.
C'est normal, c'est les chiffres de la Macronie. C'est comme pour tout, c'est jamais en.
Non, je me demande si t'as pas une dent contre Macron. Je pose la question depuis le début.
Ça, alors.
On en parlera tout à l'heure à 10h. Premier sujet de discussion, l'effroyable meurtre de Lola qui devient une affaire politique autour de l'histoire de l'obligation de quitter le territoire français de la principale suspecte. C'était hier à l'Assemblée nationale, les Républicains et le Rassemblement national se sont emparés de l'affaire. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce que c'est indécent? Écoutez cette passe d'armes politique entre les Républicains et le garde des Sceaux.
RMC, les grandes gueules.
Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici.
Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel.
Coup de gueule du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Alors, est-ce que c'est indécent de la part des partis politiques de vouloir récupérer, et je mets des guillemets à récupérer, le meurtre de Lola?
Alors, en tout cas, le martyr de cet enfant est devenu un sujet politique, ça on l'a bien vu, avec cette passe d'armes hier à l'Assemblée nationale entre la droite et le gouvernement. En fait, c'est sur le statut de la meurtrière présumée. C'est une Algérienne qui est en situation irrégulière, qui aurait dû quitter le territoire cet été. Ça, on l'a appris. Alors, en fait, Dupond-Moretti et Elisabeth Borne qui ont pris la parole pour dénoncer l'indécence de cette récupération politique ne répondent pas finalement sur le fond du problème. Madame Borne dit il y a séparation du pouvoir et Dupond-Moretti commence à en parler mais va pas plus loin. Donc ce sont quand même des questions qui restent pour l'instant sans réponse. Est-ce qu'on a le droit quand même de se poser des questions sur le parcours de cette meurtrière présumée? Fallait-il un délai de deuil? Certains disent c'est trop tôt, il fallait attendre le deuil. Moi j'ai souvenir quand même que la gauche n'a pas hésité à elle aussi récupérer par exemple l'affaire Traoré, le jeune Théo dans le passé. Il y a même eu des manifestations très rapidement à l'époque. J'ai pas souvenir que le gouvernement dénonçait des récupérations. Donc est-ce que la colère et l'indignation, est-ce que c'est un monopole pour certains et pour d'autres ça serait une indignité? Qu'est-ce que vous en pensez?
32-16 pour le dire au juge Étienne. C'est indécent?
Écoute, moi j'ai été un peu choqué. Alors, outre le fait que le meurtre et le viol de cette gamine sont insupportables, moi j'ai été un peu choqué par le. Je pensais honnêtement pas que ça allait devenir un sujet politique à cette vitesse-là. J'ai été choqué d'autant plus que. Moi je suis de très près toutes ces affaires qui concernent les enfants et les meurtres et les viols d'enfants que. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il y avait encore cette semaine le, le jugement de Barizon, un légionnaire qui a massacré un bébé de 3 mois. Et donc, je veux dire, c'est des réalités dans un pays. Là, on est tous choqués aussi parce que c'est une femme et qu'on n'est pas habitué, même si on sait que les femmes congèlent les bébés, etc. Bon, mais je pense que moi, j'ai été choqué par la récupération politique. Oui, à mon niveau, oui, parce que je suis éducateur et parce que je pense tout à fait à autre chose que à cette question-là. Quand on parle d'une petite fille qui a été violée et tuée, franchement, voilà, j'en suis pas là. Après, quand je vois que, après, effectivement, ce matin, j'ai un peu écouté comment se passaient les OQTF en France. En plus, il se trouve que cette femme-là, certes, elle n'avait plus rien à faire sur le territoire, mais elle avait un casier judiciaire vierge. En plus, elle était même pas repérée par les services psy. Donc c'est très compliqué parce qu'elle était en plus SDF, etc. Donc c'était évidemment très compliqué. Mais en plus, elle fait pas partie des gens
dont
on se dit...
Elle avait 30 jours pour quitter le territoire, oui. Mais de son propre chef.
Mais oui, bien sûr.
D'elle-même,
bien sûr.
Elle aurait dû quitter la France.
Pourquoi ça marche pas, d'ailleurs.
Non, mais attends, parce que, en plus, si tu veux, les quotas de retour avec l'acceptation du pays d'accueil sont très rares, sont très peu, donc ça fait 5 par jour.
Ça pose quand même un vrai problème.
Non, mais ça pose un problème, mais attends, je termine. Mais en plus, si tu veux, autant souvent on se dit ce type a blessé quelqu'un, a agressé quelqu'un, c'est pas normal qu'il soit sur le territoire. Là, en plus, on est devant quelqu'un dont le seul... avant ce drame, dont le seul délit était de ne plus être en règle.
Ce n'est pas un délit d'ailleurs, ce n'est plus un délit.
Voilà.
Écoute, moi, ça fait des années que je suis à cette table, que régulièrement les gens s'écharpent sur les quotas d'immigration, de non-immigration, et à la fin de la discussion, tout le monde dit de toute façon, quand il y a un clandestin qui est pris, jamais il est reconduit chez lui. Voilà. Voilà où on en est dans ce pays. Donc ça révèle au grand jour ce que tout le monde sait déjà, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un en situation irrégulière qui est rendu à son pays parce que le pays ne veut pas, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on demande gentiment aux gens rentrer par vos propres moyens chez vous. Voilà, tout simplement. Ça fait que remettre au grand jour
48 heures après la mort de
voilà, et que qu'une opposition politique telle qu'elle soit s'empare de ça pour dire ça fait des années qu'on dénonce ça, y compris quand nous on gérait, c'était la même chose. Enfin voilà, il faudrait qu'ils aient un peu de nuance quand même parce que ce truc-là, il dure depuis des années et ce drame, il fait que mettre en évidence que tout le monde savait, après qu'on fasse de la politique là-dessus, c'est complètement indécent, mais c'est aussi normal. Enfin, moi, j'aime bien aussi la réponse du garde des Sceaux en disant « vous exagérez mais en même temps, on inverse les rôles et on met les gens dans les autres cases, ça serait passé exactement Barbara. De la même façon, quoi. »
Quand un pédophile est interpellé, sanctionné, et puis que par le jeu des réductions, remises de peine et compagnie, il ressort et il récidive, il est légitime, normal, de demander des comptes, à la justice. Lorsque un homme violent a été à maintes reprises condamné ou suspecté ou main courante et compagnie concernant les abus qu'il commet sur sa femme. Et finalement, il tue sa femme. Je crois qu'il est légitime de demander des comptes à la justice. Lorsque une femme, alors, qui ne se fait pas remarquer, etc., mais qui a une OQTF et qui n'est pas renvoyée dans son pays en bonne et due forme selon les temps requis, il est donc légitime de demander des comptes à l'État. Car, je suis désolée, la responsabilité du pouvoir, d'un pouvoir dans tout pays, la première de ses responsabilités dans la Constitution, dans les droits fondamentaux, c'est la protection de ses citoyens et en particulier des plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes psychiquement malades. Donc je suis navrée, il y a une responsabilité de l'État. La question, c'est pas responsabilité de l'État macronien ou de l'État Hollande, Sarkozy, puisqu'on le dit, c'était tous pareil. Mais il est légitime que les représentants de la République, les représentants des citoyens au sein de l'Assemblée nationale pose des questions, et il pose les questions comme il le souhaite.
Donc le garde des Sceaux n'a pas à leur répondre de cette manière, c'est ça ?
Monsieur Dupond-Moretti déjà répond comme ce qu'il est, et ce qu'il a toujours été, un avocat pénaliste, et il me semble qu'en tant qu'avocat pénaliste de renom, il a lui-même été systématiquement au rendez-vous du malheur, puisque c'est ça qui lui a permis de gagner des sommes astronomiques. Donc le rendez-vous du malheur, qui la ferme un peu, c'est sa réaction à lui, à Monsieur Dupond-Moretti, qui est indécente. Quant à Madame Borne, c'est parce qu'elle ne veut pas répondre. Il y a 120 000 OQTF chaque année. Il y a 1800 places dans les centres les centres de rétention administrative. Donc, on se doute bien que tout le monde est dans la rue. Bon. Maintenant, il y a une autre question. Moi, j'aurais posé une question à Madame Borne. Mais Madame Borne, vous étiez pas en Algérie il y a 15 jours avec 17 ministres? au passage, hein, en plus du gaz et tout, vous l'aurez pas parlé des laissez-passer consulaires, parce que avec les pays du Maghreb, on est à moins de 2% des OQTF réalisés. Donc moi, cette femme-là,
c'est particulièrement compliqué d'ailleurs avec l'Algérie.
Particulièrement compliqué avec l'Algérie. Et on fait des voyages pourtant. Hein. Monsieur Macron est allé lui serrer la paluche au président de la République algérien. Madame Borne, pareil, avec 17 ministres. Et on discute pas de ces choses-là. Et quand Monsieur Darmanin va au Maroc,
non,
on lui claque la porte au nez.
On en discute, qu'est-ce que t'en sais, Barbara?
Si, on en discute et on leur claque
la porte
au nez.
On en discute, mais l'Algérie dit allez vous faire foutre.
Voilà,
tout
alors
simplement.
Je vais te dire, si c'est allez vous faire foutre, c'est allez vous faire foutre pour les visas aussi. Bah, c'est-à-dire que tu fermes tous les robinets. Sauf que les robinets, on les ferme pas.
Non, c'est le cas.
Non, c'est le regroupement familial qui continue. Arrêtez un peu là.
Moi, j'ai été interpellé, Barbara. Attention. J'ai été interpellé dans la rue par un Montsolien qui m'explique qu'il n'arrive pas d'avoir un visa de vacances pour
personne
ses,
peut arriver.
Pour ses parents qui viennent le voir. Juste, ça fait 15 ans qu'il est chirurgien.
Je vais terminer par ailleurs sur un point. Par contre, les propos d'Éric Zemmour et de toute sa troupe et de son marigot raciste.
Alors, il faut expliquer.
Sur la question du francocide, c'est une honte absolue. Cette femme, cette Dabia en question, là, c'est son prénom. Elle n'a pas ciblé Lola parce que Lola était une Française. Ils veulent absolument tout ramener à la question des attentats djihadistes et effectivement certaines personnes en France qui ciblent des Français ou qui ciblent des Juifs ou qui ciblent des femmes en raison de leur idéologie. Ici, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est la vraie récupération. Or, je suis navrée, ni LR, ni le RN n'ont été sur ce délire du francocide que la Zemmourie est en train de diffuser. Donc ça, oui, ça, il faut s'insurger contre ça. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est légitime. C'est le devoir de nos députés.
Simplement, ouais. Je pense qu'il faut faire attention dans les termes employés. Ouais. Le député LR,
oui, c'est ridicule.
Dans son propos, dit en gros, c'est le gouvernement qui est responsable de la mort de Lola. C'est ça, on peut pas dire
non,
ça. Et
puis,
personne au sein du gouvernement ne souhaite la mort d'une jeune fille. Souhaite la mort d'une jeune fille. En revanche, je suis d'accord avec toi. L'exemple est très bon parce que quand effectivement une femme se fait est tuée par son mari et qu'on s'aperçoit que le mari, c'est pas la première fois qu'elle avait alerté.
Il y a 17 mains courantes.
Eh bien, les députés de gauche qui aujourd'hui sont vent debout contre la récupération sont les premiers à l'Assemblée et ils ont raison à demander des comptes à la justice.
Vous vous rappelez ?
C'est exactement.
J'ai
l'impression quand même, Étienne, que quand ça vient de la gauche. C'est normal, quand ça vient de la droite, c'est une récupération.
Cette femme algérienne, qui voulait vivre de façon émancipée et qui était en train de se séparer de son mari violent, il l'a immolé dans la rue. On en a parlé pendant des semaines et des semaines. Personne n'est venu nous dire que c'était de la récupération. Non. Et heureusement, parce que c'était légitime de poser des questions. Donc là, c'est légitime de poser des questions. Et c'est pas
le
la famille.
Le monopole n'appartient pas.
La famille est en deuil et on doit respecter le deuil de la famille. Mais nous sommes des citoyens. Et justement, pour protéger nos enfants, nous devons être en colère et nous avons
Il y a deux choses, Étienne. Il y a l'interpellation à l'Assemblée nationale, et puis après, il y a la manifestation qui aura lieu dans le 19e. Oui, il n'y a pas qu'Éric Zemmour, parce que Marine Le Pen, délégation du Rassemblement national, ils seront avec des fleurs, les portraits de Lola et autres. Et
très sincèrement, tu vois, puisqu'on est là dans la politique la plus politicienne du monde, je ne suis pas sûr que ça les serve. Je ne pense pas, à l'exception d'un tout petit pourcentage de Français qui, de toute façon, est zémourien de base, je ne pense pas que ça va les servir, parce que la ficelle est tellement grosse et puis tout le monde est tellement dans cette histoire. On n'est plus à une époque où on imaginait qu'il n'y avait pas de crimes d'enfants, que la France est un pays qui précisément a pratiquement le record du nombre de crimes et de maltraitances sur enfants. En tout cas, nous on le sait parce qu'on s'en occupe. Donc, je pense pas que les gens sont dans cet esprit zémourien et je pense que ça va les desservir. Je crois que c'est même une faute politique. Et très honnêtement, bien sûr que c'est dégueulasse. Et en plus, je pense qu'ils vont pas, ça va rien leur ramener, leur rapporter en termes de
popularité. On va aller dans le Val-de-Marne au 32-16. Écoutez, Mohamed qui est chauffeur VTC. Bonjour Mohamed.
Bonjour à tous. Merci de me faire passer à l'antenne.
Je vous en prie, est-ce que c'est indécent politiquement ou pas alors?
Politiquement, c'est totalement indécent dans le sens où, comme on a pu constater lorsqu'ils ont acheté des sites où ils mettent pour Lola, la marche pour Lola, etc. Donc ils en font un fonds de commerce sordide. Ils n'ont aucun respect pour la peine que vivent les parents. La situation les arrange parce que si tu le sens papier algérienne, et donc à partir de là, ils essayent de rebondir sur cette affaire. Et je trouve ça vraiment désolant. Ça ne m'étonne pas de leur part. Mais
c'est Reconquête qui fait ça, Mohamed. Hein. C'est Zemmour.
Oui, c'est Zemmour.
Oui, non, mais c'est pas le RN ni LR hein, qui fait ça.
Et Rassemblement National qui surfe avec, parce que vous avez le candidat là, pour le Rassemblement National qui apparemment va y manifester.
Non, là, bah oui, mais bon.
Reconquête. Regardez là, Zemmour, en là, même temps. À partir de là, ils se sont tous réunis. Ils n'ont strictement rien à faire de la peine de cette petite fille. Et moi, qui suis père de famille, qui envisageais de laisser mes gamins de rentrer de l'école élémentaire seul, en tant que père de famille, je me pose la question, c'est est-ce que je vais le laisser faire? C'est juste que là, la ficelle est trop grosse. C'est une Algérienne, ça tombe très bien. Et il fallait capitaliser et il fallait engranger un maximum d'adresses mail, etc. Parce que pour participer à ces événements, il va falloir donner ses identités et ses coordonnées. Donc, je trouve ça totalement, mais vraiment...
Mais c'est surtout illégal. C'est surtout illégal de faire du phishing de mail pour une manifestation. Ils n'ont pas le droit de le faire.
Mais c'est totalement illégal.
Quand bah, ils l'ont fait pendant toute la campagne.
Ils ont balancé à toute la... les Français de la communauté juive des appels au vote Zemmour. Donc, ce n'est pas leur premier fait.
Tout à fait.
Donc, sauf qu'à un moment, il faut que ça s'arrête tout cela. Et je ne suis pas là pour faire du pas d'amalgame. Je suis d'origine algérienne et je ne me sens pas du tout solidaire de ce qu'a fait cette personne. Bien au contraire.
Mais la question, en fait, Mohamed, c'est justement, c'est important. On est assez d'accord avec ce que vous racontez et que la ficelle est un peu grosse du côté d'Éric Zemmour.
Mais des deux côtés, la ficelle est grosse.
Mais je pense qu'effectivement, la ficelle est aussi grosse. C'est-à-dire, Dupond-Moretti ne peut pas simplement dire indécence. Il faut aussi qu'il réponde à la question. En fait, ce n'est pas qu'elle soit algérienne. C'est son statut qui pose problème.
Elle serait
finlandaise ou etc. C'est en fait, elle a un statut qui interroge et on se dit, cette femme, finalement, si elle n'avait pas été sur le territoire,
on lui avait pas renouvelé son titre de séjour, mais comme elle n'avait enfreint aucune règle, ni mis en danger la sécurité publique ou quoi que ce soit.
Oui, car être sans papier en France n'est pas un délit.
Depuis François Hollande.
Nulle part. Son titre de séjour est périmé.
Mais c'est plus un délit maintenant.
Sauf qu'à un moment, c'est là où le législateur doit justement s'emparer de ce dossier, de manière apaisée.
Oui, mais c'est compliqué cette affaire parce que, alors déjà, je trouve que l'exemple, même l'exemple de récupération de l'extrême droite est mauvais sur cet exemple parce que, à la limite, entre guillemets, le seul délit qu'elle ait commis, c'est de ne plus, avant ce drame, c'est de ne plus être en règle.
Ce qui n'est pas un délit.
Ce qui n'est plus un délit. Mmh. Et c'est ça qui est absolument, d'ailleurs, c'est absolument questionnant aussi pour, je pense, la police et les spécialistes. C'est que c'est rarissime qu'une personne commette un tel crime avec un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun signalement, qu'il
n'y a eu aucun internement. Les planètes sont alignées pour que ça ne se passe pas comme ça. Sauf que ça s'est passé.
Voilà.
Et moi, tu vois, j'attends d'un député, contrairement à Barbara, j'attendrai d'un député qu'il ait une question plus large et qu'il extrapole sur cette affaire pour dire combien il y a de personnes en situation de reconduite à la frontière
qui sont pas reconduites.
Et comment on débloque les situations?
Mais on le sait. Plutôt ils vont te répondre, on n'a pas les laissés passer consulaires, c'est pas de notre faute. Voilà, c'est aussi.
Sauf que le président de la République, Emmanuel Macron, dans une interview très récemment, a assuré qu'il voulait une exécution à 100%.
À qui il a dit ça? Il a dit ça à Valeur Actuelle. Parce que Monsieur Macron croit qu'il peut parler à Valeur Actuelle. Après, il parle à Brut. Après, il parle à Mediapart.
Même aux États-Unis,
il parle au Figaro. Et il dit à chacun ce qu'ils veulent entendre. Mais qui est dupe de ça?
En fait, le problème, c'est que c'est à la personne elle-même de quitter le territoire. On se doute bien que cette jeune femme qui était une marginale, qui n'avait donc visiblement pas de ressources, qu'elle est de squat en squat, elle dormait pas dans la rue, elle dormait dans des squats.
Elle allait chez sa sœur quand même.
Et là, elle dormait chez sa sœur, mais donc elle avait visiblement pas. Donc on pense qu'elle-même, jusqu'au 21 septembre, elle va s'arranger pour rentrer dans son pays. Enfin, c'est là où
c'est marrant, il y a s'il vous plaît, les amis, je remercie Mohamed d'avoir été avec nous, d'avoir participé à notre discussion. Tiens, Mohamed, qui est chauffeur VTC, je fais une petite incise. On part peut-être dans le à vous de choisir tout à l'heure de la
circulation. Mohamed, reste en ligne.
De la sécurité des chauffeurs VTC, ça fait partie des sujets qu'on vous propose. Mais vous allez sur internet rmc.fr pour voir si vous souhaitez parler de ce sujet avec nous. Donc, Lola, la récupération politique, indécence, oui ou non. Dans un instant, on l'évoquera aussi avec Vincent. Vincent, il est du côté de la Savoie. Il est boulanger. Et voir l'Assemblée nationale s'enflammer autour de ce drame, ça ne le choque pas plus que ça. On continue d'en discuter avec vous au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours en direct avec vous au 32-16. On parle de la mort atroce de Lola, avec aujourd'hui le fait que ce soit devenu une affaire politique. On a entendu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vincent, bonjour.
Oui, bonjour Olivier.
Vous avez vu hein, cette passe d'armes à l'Assemblée nationale, Madame Borne, Marine Le Pen, Éric Dupond-Moretti, le député Pogé. Qu'en dites-vous alors, Vincent?
Bah, c'est vrai que maintenant tous les sujets sociétaux, la politique se met dedans. Et je pense que mais ils ont un peu raison quand même, parce que si la droite s'était pas emparée de ce cas, je pense que ça aurait été encore mis sous le tapis, comme beaucoup d'autres affaires qui se passent en France depuis des années. Ouais. On vit dans une société qui devient pas possible à vivre, quoi. Donc, et remettre ça toujours sur le tapis. Alors après, on nous parle que c'est indécent. Mais oui, bah forcément, ils ont que ça à la bouche au gouvernement. C'est indécent. Mais à un moment donné, il faut quand même parler de ce qui se passe en France. Et c'est une petite fille de 12 ans qui est morte, quoi. Moi, je pense à sa famille. Je pense à ma nièce qui a son âge. Et ça aurait pu lui arriver à elle, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est horrible ce qui s'est passé. Et heureusement que la droite est là pour en parler, parce que la gauche, ça c'est sûr, ils n'en parleront jamais de ça. Et Macron et le gouvernement, c'est une affaire comme une autre pour eux. Hein. Ils trouvent ça indécent justement qu'on rapporte cette affaire-là dans le débat.
Alors après, ils disent pas que c'est une affaire comme une autre, ils disent que c'est une affaire exceptionnelle. Moi, je pense que ce qui n'est pas exceptionnel, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une personne qui est en situation irrégulière commet un meurtre ou plusieurs meurtres. On se souvient notamment des deux femmes qui, à Saint-Charles, à Marseille, ont été agressées par un homme qui était aussi... Donc ça arrive quand même malheureusement assez régulièrement dans l'actualité, donc ce n'est pas exceptionnel. Le meurtre en lui-même est exceptionnel parce que Étienne l'a dit, c'est assez rare quand même qu'une femme tue et viole. C'est souvent les hommes qui le font. C'est pour ça aussi que ça nous choque, je pense, parce que forcément, ça nous renvoie. Ça nous choque aussi parce qu'on est des parents et qu'on a des enfants qui ont l'âge aussi de Lola et qu'on imagine à Paris, etc. Enfin voilà. Donc bien sûr, on s'identifie. Mais je pense qu'ils ont tort de parler d'indécence. Vous avez raison. Ce qui est indécent, c'est le meurtre. C'est pas les propos de ce député LR.
Ce qui peut choquer aussi, c'est le fait que les parents se sont inquiétés immédiatement, que la police a diligenté immédiatement, et que donc le fait de savoir, et ça je veux dire, il n'y a même pas de mots, de se dire que la police était là, la police était dans l'immeuble, elle était autour de l'immeuble, alors que il y avait l'autre espèce j'ai même pas de mots pour la qualifier, qui était en train de massacrer la petite dans un appartement, dans l'immeuble, parce que les faits se sont déroulés entre 15h15 et 17h, et la police était là. Donc, la police, est-ce qu'elle a regardé? Ça aussi, enfin, moi, je dis, il y aura aussi une enquête à faire et des investigations à faire là-dessus. La police, elle a fait ce qu'elle a pu, sans aucun doute. Mais se dire que cette femme, il y avait des images sur la vidéosurveillance, et ça, le papa, il a dû les montrer tout de suite à la police, puisque la maman les avait mis sur Facebook en disant, voilà, la dernière personne avec qui on a vu ma fille, c'était elle, et elle a mis ça sur Facebook à 15h20, 15h30, la maman. Donc, en plus, c'est tellement l'horreur de se dire, ça s'est passé quasiment sous nos yeux.
Ça s'est joué à quelques
heures. Barbara. Voilà, donc là, il y a de la légitimité à poser ça sur la table. Et ce n'est pas à la famille de le faire. La famille, on doit respecter en effet son deuil, mais c'est aux citoyens, c'est aux journalistes, c'est aux gens, c'est aux députés de mettre ça sur la table. Et que le gouvernement nous dise que c'est indécent, pourquoi ils le font, comme ils le font pour toutes les affaires. C'est parce que, logiquement, les choses vont. L'émotion va descendre, parce qu'on est fait comme ça, voilà, et c'est des courbes de Gauss, donc ça monte et puis ça redescend. Et ce qu'ils attendent toujours, pour tout, que ce soit les carburants, les gilets jaunes, un meurtre, un machin, c'est que, allez, la roue tourne, on passe à autre chose, et on passe à autre chose. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, et moi, on en rigolait tout à l'heure au maquillage, mais moi, dans la voiture, j'écoutais la chanson d'Orelsan, l'odeur de l'essence. Moi, je suis désolée, oui, le gouvernement, il ne sent pas l'odeur de l'essence, il ne sent pas tous les petits feux qui sont en train de monter. Et de tout genre, aussi bien à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au centre, à droite, à gauche, les hommes, les femmes, ce que vous voulez. Partout, ça brûle. Et à un moment donné, il y aura une étincelle. On ne sait pas laquelle ce sera.
Non, Barbara,
ça peut être Lola, ça peut
Barbara,
être d'autres choses. Et ça pètera.
Barbara,
mais bien
sûr. Merci, d'abord, Vincent, d'avoir
ne crois pas que, ne crois pas, j'y crois pas une seule seconde que le gouvernement ne sente pas, ce qui est l'odeur de l'essence.
Dans la crise des carburants, il n'a pas senti grand-chose.
Qui repousse.
Pourtant, il n'y en a plus de l'essence.
Qui repousse la réalité parce qu'il n'a pas les moyens d'intervention, ça j'en suis bien d'accord, qui se disent, et comme ils nous le disent sans arrêt, d'accord, vous pleurez, mais regardez ailleurs, c'est pire, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, ça chauffe encore plus, donc vous êtes en train de pleurer, vous êtes des privilégiés, ça d'ailleurs c'est assez insupportable, cette façon de nous traiter en nous rappelant quand même que ça pourrait être pire, on pourrait être en Angleterre, oui d'accord. Bon, donc en fait, je pense qu'ils sont très au courant de tout ça, cette affaire. Je trouve qu'il faut faire attention parce que effectivement même la famille doit être horriblement, d'ailleurs je crois qu'il y a une déclaration dans Le Parisien ce matin, je n'ai pas eu le temps de la lire, mais terriblement choqué par le, de penser que la gamine devient un enjeu politique. On aurait pu poser les choses un peu de temps de façon à ce que
c'est
au moins
pas,
le
c'est pas Lola qui est un enjeu politique, c'est les OQTF non réalisés,
c'est la mère
qui sollicite toutes les femmes qui sont violées.
Barbara, et enfin, je trouve que ce qui nous met dans une situation qui est insupportable psychologiquement, c'est que nous ne supportons pas, et ça c'est toujours vérifiable, qu'il y ait des actes de barbarie qui soient commis sans raison. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est un acte gratuit. Oui. Ça nous est insupportable. Tu rappelais très très bien que la police était là, mais qui peut imaginer un passage à l'acte? On voit ça dans des séries, mais en fait, ça n'existe pas. Même les mecs aux États-Unis qui se pointent avec un fusil et qui tuent 25 mômes, en fait, quand tu vas dans leur histoire, tu découvres qu'ils en voulaient au directeur.
Attends, c'est pas encore. Il y a eu un témoignage intéressant sur BFM TV, celui de l'ancien petit ami de cette jeune femme, qui dit quand même qu'elle avait
elle
avait perdu ses deux parents, qu'elle
voulait se convertir
peut-être dans l'évangélisme, qu'elle entendait des voix. Quand elle a parlé aux policiers, elle a dit je ne sais plus si je l'ai rêvé ou si je l'ai fait. D'ailleurs, à mon avis, elle peut être déclarée irresponsable pénalement, ce qui va d'ailleurs provoquer une autre polémique, parce que si elle est irresponsable pénalement, il n'y aura pas de procès, c'est-à-dire c'est terminé. Elle sort de prison,
on la met
dans un hôpital psychiatrique.
On la mettra dans le même hôpital psychiatrique que Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, qui se repose tranquillement, sans aucun médicament et qui va très bien. J'en profite pour passer le message.
Ça va poser problème, mais en même temps, si elle entendait...
L'acte,
quel qu'il soit, même si c'est là, s'il est guidé par la folie, par les voix de Jeanne d'Arc, c'est quand même insupportable dans la mesure.
Dire que Jeanne d'Arc était folle.
On n'arrive pas.
T'en prends à Jeanne d'Arc, c'est odieux.
Francis Holm aussi, il entendait peut-être des voix. Oui, on lui a pas demandé. Francis Holm. On s'en fout. Ça n'excuse rien, il mérite de finir où il est, c'est-à-dire en taule.
Vous êtes en train de réécrire le droit, là.
Non, je réécris pas le droit, dis qu'à un moment donné, il y a certaines affaires. Il y a certaines affaires ou des expertises, parce que t'as des juges qui redemandent des expertises des avocats de la défense et re-expertisent. Et les expertises psychiatriques, elles n'ont aucun fondement de scientificité absolue. Et d'ailleurs, il est bien dit dans le droit, il peut y avoir 4, 5 expertises psychiatriques, c'est le juge in fine qui décide. Et dans l'affaire Sarah Halimi, non.
C'est les jurés.
C'est les jurés. Il n'y a pas de juré puisque s'il y a une responsabilité pénale. Je sais de quoi je parle. Sur l'affaire Sarah Halimi, le juge aurait très bien pu dire, on fait quand même un procès aux assises, quitte à ce que les jurés aux assises le déclarent face à un non-lieu pour irresponsabilité en raison de troubles psychiatriques, ce qu'il a essayé de pipoter pendant des mois et des mois. La réalité, c'est que non, la juge, elle a décidé qu'il fallait lui donner une irresponsabilité pénale. Alors que ce type-là, il n'a jamais eu de bouffée délirante de toute sa vie, il en a juste eu une pendant 20 minutes. Oh bah tiens, c'est étonnant. Et maintenant, il prend pas un seul cacheton et il est en l'hôpital psychiatrique tranquille.
Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bienvenue Jérôme. Vous êtes policier ?
Oui.
Que dites-vous alors? Est-ce que vous dénoncez, vous parlez d'indécence avec la récupération politique ou pas?
Alors, comme je disais avec votre standardiste, moi je réagissais plutôt sur les OQTF, hein, j'envoyais un message là-dessus, parce que oui, c'est de l'indécence, de part et d'autre. Tout le monde va récupérer, Lola va devenir un symbole, on va oublier qu'il y a une petite fille derrière, voilà, ça va être l'affaire Lola. Mais en fait, derrière ça, il y a la même application de notre droit. Et je disais donc dans mon message que nous, les OQTF, je vous le dis en toute honnêteté, nous ne les traitons plus. Nous ne les traitons plus. Pourquoi? Parce que moi, sur la voie publique, lorsque je contrôle quelqu'un, même qui a commis un délit en OQTF, la partie OQTF est forcément mise à la trappe. Elle n'est pas mise à la trappe parce qu'on est des feignants et qu'on ne veut pas faire notre boulot. Elle est mise à la trappe parce que le service qui est en charge de ça nous renvoie toujours la même décision, à savoir de laisser repartir la personne en lui rappelant qu'il serait peut-être nécessaire de se conformer avec le droit du pays qui ne l'accueille plus. Et ça vaut pour tout le monde. Et vous parliez de l'affaire de la gare Saint-Charles. Je tiens juste à vous rappeler une petite chose. À la gare Saint-Charles, la personne qui a égorgé ces deux jeunes filles sortait d'un commissariat où il avait été traité pour son OQTF. Et je peux vous garantir que dans la foulée, on a tous reçu des notes de service nous demandant de veiller au bon traitement des OQTF. Mais le problème, c'est que la chaîne derrière, la chaîne toujours la même, la chaîne judiciaire, sur laquelle il ne faut jamais taper puisqu'elle n'a aucun compte à rendre à personne, la chaîne judiciaire ne le fait pas. La chaîne préfectorale non plus.
Et ça veut dire quoi, Jérôme, ne le fait pas?
Ça veut dire concrètement que moi, si je tombe sur quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur le territoire national, si je fais mon travail pour lequel je suis payé par les contribuables français, je le ramène au commissariat, je fais une procédure qui dure une heure et demie, mes collègues judiciaires, comme ce n'est plus un délit, il n'est pas placé en garde à vue, mais en rétention, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure.
Il y a de la
donc,
place.
Ils ont un délai très court pour le traiter. Vous avez une chance sur deux, à peu près, qu'on vous réponde qu'il est trop tard, parce que le service compétent ne travaille plus, hein, parce que c'est formidable aussi. Ils sont de service public, mais pas tout le temps. Et puis, vous avez une autre chance sur deux qu'on vous dise, bon, laissez-leur partir en lui rappelant, donc en le notifiant, en fait, vous faites un PV dans lequel vous lui dites, au fait, vous savez, vous n'avez plus le droit d'être là, ce serait bien de repartir. Évidemment, une personne dont on ne connaît pas l'adresse ni rien, il va évidemment repartir aussi sec. Il est tellement impressionné par le déploiement de force de la justice qu'il va repartir. Vous sentez bien l'ironie dans
le monde. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, Jérôme, vous les traitez plus ces cas-là? L'heure de procédure, vous la faites plus?
Concrètement, je vais vous le dire honnêtement, c'est pas bien, il ne faut pas le dire. Concrètement, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que je l'ai déjà fait deux fois sur la même personne. Donc j'ai été surpris de le revoir, donc je l'ai refait. Et je l'ai revu une troisième fois. Donc je me suis dit, à un moment donné, vider l'océan à la petite cuillère, à un moment donné,
Des fois, quand j'entends parler,
j'ai l'impression d'être dans l'éducation nationale, c'est pareil. Oui, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas les moyens, on vous dit, on vous met la
alors justement, j'ai une question à vous poser, Jérôme, parce que vous dites, on ne nous donne pas les moyens. Or, le président de la République avait dit, et c'est une déclaration qui est ressortie depuis 2-3 jours, avait dit qu'il voudrait maintenant que 100% des OQTF soient exécutés. Donc ça, c'est une volonté présidentielle, mais vous dites que sur le terrain, ça n'a pas été relié,
vous m'en prenez sur mes propos, je ne vous dis pas que sur le terrain ça n'a pas été relié, je vais vous expliquer. Le président de la République, il a aussi dit que la violence faite aux femmes était une priorité nationale.
Oui.
Or, quand je vois aujourd'hui les gens qu'on ramène pour des violences conjugales, il n'y en a quasiment aucun, je dis bien aucun, qui est déféré au tribunal.
Et quand
ils sont déférés au tribunal, très peu sont emprisonnés parce qu'il ne faudrait pas aggraver la situation. Donc, les belles paroles, c'est toujours facile.
Mais comme pour les enfants maltraités qu'on laisse dans la famille,
parce qu'il ne faut pas couper le lien, vous comprenez.
C'est aussi parce qu'ils se font violer dans les familles d'accueil, excuse-moi.
Bah oui, mais pas seulement.
On va demander
pas seulement. Il vaut mieux qu'ils restent dans leur famille où ils se font violer, t'as raison, il vaut mieux toujours être violé par ses parents.
Excusez-moi, on les reçoit les directives, il n'y a pas de problème, on nous met bien la pression, vous savez, quand ça descend, ça prend de la force.
Oui.
Donc on nous met bien la pression, on reçoit les directives, mais en fait, il n'y a personne derrière qui vérifie.
Pour les faire appliquer.
Vous savez, moi, ma spécialité, c'est la lutte contre le stupéfiant, là où je travaille. On en fait tous les jours, et ils sont relibérés tous les jours, alors que le ministre a dit que c'était la grande cause. Mais sauf qu'il a oublié de le préciser à M. Dupond-Moretti. Donc quand vous faites ramener 10 fois la même personne, mais je vous jure, 10 fois
ça va être
la
décourageant. Même personne,
et qui vous dit « à demain », vous vous dites « mais pourquoi je m'embête ?» Parce que ce genre d'opération aussi, quand vous prenez des risques physiques, vous prenez des risques que ça dégénère et de finir sur YouTube avec une procédure derrière vous. Donc en fait, vous vous dites « mais autant rester dans la voiture, cramer du carburant et faire comme si on voyait rien ». Et
Jérôme,
après, cet homme dont les flics ne font plus rien.
Jérôme, on va
conclure
cette discussion sur votre témoignage qui était à la fois un vrai coup de colère et destiné à ce que ce soit
une prise de
conscience.
C'est pas très rassurant.
Comme je sais que nous sommes scriptés dans certains ministères, qu'il y a les comptes rendus de DGG, j'espère que celui de Jérôme sera bien écrit.
Hier, j'entendais juste un point.
J'espère qu'il n'aura pas de problème, Jérôme, parce que il y a quand même un devoir de réserve.
Merci à Jérôme. On vous a posé la question. Lola, une récupération politique, qu'en dites-vous? Non à 64% pour les 1500 personnes là qui ont voté
pour Madame Borne,
en
qui nous
écoutant les GG.
Et M. Dupond-Moretti qui nous écoute aussi.
Dans un instant, on s'en fout. Alors écoutez bien, on s'en fout ou on s'en fout pas. Jean Castex, nouveau patron de la RATP, les explications du patron de Total lui-même sur Twitter concernant sa rémunération.
Il y en a ras-le-bol.
On s'en fout ou on s'en fout pas. Reste avec nous.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, Didier Giraud et Étienne Liebig. Avant de passer où on s'en fout, on s'en fout pas, je vous rappelle que toute cette semaine, RMC vous offre un an de leasing pour une voiture électrique, plus de 2000 euros afin de rouler pendant un an. Bénéficier de ce gain pour louer une Zoé, c'est 169 euros par mois. Une Hyundai Ioniq électrique, 109 euros par mois. Donc, si vous souhaitez avoir un an de leasing pour une voiture électrique, il suffit d'abord que vous reconnaissiez ce bruit. Donc, est-ce qu'à votre avis, c'est un moteur thermique ou un moteur électrique?
Faut donner le nom.
Si c'est un moteur électrique, ça sert à rien de y passer. Hein.
Vous m'envoyez voiture par SMS au 732-16. Voiture par SMS au 732-16. Vous jouez, vous passez en direct tout à l'heure dans les GG à 11h20. Vous êtes inscrit pour le tirage au sort. Et en plus, on vous gagne des places pour le mondial de l'auto à Paris. Allons, on y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Mon cher Louis, on y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Mais c'est toujours en cours là.
Alors ça, c'est injuste.
Toujours en cours, toujours
c'est compliqué. Vraiment trop injuste.
Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante. C'est le tweet de Patrick Pouyanné, PDG de Total hier. Alors en 2017, c'est 6 millions. En 2018, 5,8 millions. En 2019, 6,1 millions. En 2020, catastrophe, 3,9 millions. Et cette année, 5,9 millions. Barbara, on s'en fout, on s'en fout pas.
On s'en fout pas parce que vraiment...
On s'en fout pas.
Ah ouais,
Didier.
Je m'en fous.
Étienne.
Non, on s'en fout pas parce que c'est ouais. C'est
Étienne.
On continue dans les je crois que tout est né d'une faute de communication très con et qu'on continue dans les fautes de communication. J'ai l'impression que le PDG de Total est à l'ouest quoi. C'est-à-dire que au départ au lieu de dire on a fait des énormes bénéfices, je vais en bénéficier et tout le monde veut en bénéficier, ça va être formidable parce que tout le monde a bien travaillé. On sait que ce type s'est augmenté de façon indécente et oui, les mecs ont l'impression d'être frustrés et qu'ils aient raison ou pas, en tout cas ils ont l'impression d'avoir été baisés dans l'affaire. Et là, le gars pour se justifier, il en rajoute dans des sommes qui n'ont aucun.
Non mais il s'est pas augmenté, c'est justement ce qui démontre.
Non mais j'ai compris.
Après, je vais pas le défendre, mais factuellement, il s'est pas augmenté puisqu'il touche exactement la même chose
que
les années précédentes, sauf l'année dernière, puisque l'année dernière avec le Covid, etc., il y a eu un creux.
Mais j'ai compris.
Donc en fait, les 52%,
on a compris.
C'est une manip des syndicats.
Il n'empêche que c'est une erreur de communication.
Est-ce qu'il avait baissé les radiateurs à 19 quand il était à 3 millions ? Parce que j'imagine que son train de vie a été. Mais sérieusement, putain, c'est un salaire a baissé de 50%. Attendez les amis, parce qu'il vit pas à l'ouest, il est pas à l'ouest, il vit sur une autre planète, ça s'appelle la planète des super riches. Et eux, 6 millions, mais il va te dire mais c'est toujours moins qu'Elon Musk hein, c'est toujours moins que le patron de Weight Watchers qui gagne 6000 fois le salaire de ses employés.
C'est moins que Karim Benzema.
C'est moins que Karim Benzema, le ballon d'or du peuple. Donc évidemment, quand tu prends des références qui sont les références de ton monde à toi, où il y a toujours des plus super riches que les super riches, moi j'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui sur les réseaux vont faire le même petit graphique, le graphique du smicard, hein, c'est-à-dire 15 624 euros par an. Et puis ils vont vous montrer que, ah oui, il y a des moments, ça fluctue, parce que des fois tu peux te retrouver à 7000 euros par an. Et alors eux, vraiment, ils chauffent même plus à 19,
allez,
ils chauffent plus.
On enchaîne.
Voilà. Non, Pouyanné, franchement, qui se taise et qui démissionne.
Vas-y,
allez, on enchaîne.
T'es dans ta jalousie,
je suis dans mon jacuzzi. Cette maxime du penseur Lafouine résonne particulièrement aujourd'hui quand dans le Morbihan, des résidences secondaires taguées de messages contre les riches. Le BZH au BZH ou encore fini les riches. On s'en fout, on s'en fout pas, Étienne.
On s'en fout pas.
D'accord. Didier.
Non, je m'en fous pas.
On s'en fout pas.
Eh ben Didier, comment ?
Je trouve que c'est un vrai problème. Alors, les solutions pour faire prendre conscience du problème me plaisent pas beaucoup, mais c'est un vrai problème aujourd'hui sur certaines zones de pression immobilière où des gens, parce que le coin plaît à tout le monde, ont tous une résidence secondaire et les locaux n'arrivent plus à habiter, quoi. C'est le problème avec les îles, qu'elles soient méditerranéennes ou les îles de France.
Et en général,
il y a eu une grande vague et il y a eu quand même de gros problèmes au Pays Basque. Il y a, ça prend aujourd'hui la côte bretonne. Je trouve que c'est un vrai problème quand les autochtones arrivent plus à se loger et à acheter, quoi.
Ouais, voilà. Alors du coup, on tacle leur maison avec marqué salauderie.
Je l'ai dit, Olivier.
Tu parles.
Je l'ai dit, Alain, à un moment donné. Derrière une mauvaise solution se cache un vrai problème.
Non, moi, j'irais pas taguer parce que j'aimerais bien m'acheter un de ces trucs du côté de l'Orient, donc je vais y aller. Non, ce qui est marrant, c'est que c'est pas que dans les coins sympas.
Non.
Hein, par exemple, chez moi, qui est vraiment le coin le moins sympa de l'histoire de l'humanité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cinquième ville la plus chère est Pantin. En France. Et chez moi, à Noisy-le-Sec, si tu veux t'acheter un studio, c'est 400 000 euros.
Mais c'est pas les résidences secondaires.
C'est pas de la résidence secondaire, mais il n'empêche que la pression immobilière oblige tout le monde à se tirer et à aller vivre dans le 77 ou le 95.
On enchaîne, Louis.
Allez, pour terminer, l'ancien Premier ministre Jean Castex va être nommé PDG de la RATP. On s'en fout pas, Barbara.
Oh, je crois que je m'en fous de Jean Castex.
Didier Giraud.
Écoute, oui, je m'en fous un peu quand même. Même si on peut quand même se demander quelle est sa compétence pour être recasé
dans le métro.
Il était Premier ministre, donc déjà t'as fait le tour de sa compétence.
Ce qui est
simplement,
c'est amusant, c'est que on a en ce moment une Première ministre qui a été patronne de la RATP, Madame Borne. On a un Premier ministre qui va devenir patron de la RATP. Ouais. Visiblement, il y a quand même un truc.
Hein. Non, mais tu vois, moi,
c'est pas mal de passer par machine ou l'inverse.
Je serais contribuable à Prades, ça m'agacerait un peu quand même. Quoi.
Oui, parce qu'il est maire de Prades.
C'est surtout l'énarchie, surtout.
Bon, il vit pas à Prades puisqu'il est obligé de prendre un jet pour aller voter.
Ah bah là au moins il prendra le métro pour aller travailler.
Mais il prend le métro.
Mais pour aller voter, ça sera plus long. Voilà. Il faut y aller en métro.
Ah, et puis Prades, pour y avoir passé cet été, c'est pas là quoi. Hein.
C'est compliqué même en train.
Je m'interroge toujours sur le pourquoi du comment de recaser systématiquement.
Ça s'appelle le recasage.
Tu vois, un premier ministre, parce que tu dis,
fonctionnaire.
Pourrait très bien dire, j'ai été premier ministre.
Je suis maire de Prades maintenant.
Je suis maire de Prades.
Non, parce que
du développement
de le marché de l'emploi est tendu, Alain. Tu comprends pas les trucs.
Pardon, mais il n'a pas l'âge de la retraite. Alain, il a quel âge? Il a
55 ans.
Moi, je veux bien qu'on mette à la retraite les gens, mais alors il faut savoir ce qu'on veut. Je crois qu'on fait travailler jusqu'à 64 ans et Jean Castex, il faudrait qu'il s'arrête à 55 ans. C'est normal qu'il travaille.
Il
est haut fonctionnaire. C'est pas un mec du privé. Attendez, vous dites n'importe quoi. Pardon, excusez-moi.
T'as raison.
C'est un haut fonctionnaire. Donc, il est à la tête d'une entreprise.
C'est qu'il devienne Premier ministre qui était agaçant.
Il a fait l'ENA, il a été formé pour être à la tête d'une entreprise publique. Enfin, ça n'y a rien,
choquant. Moi, je trouve ça à la limite moins choquant que monsieur. Monsieur Blanquer, pour qui on crée ex nihilo un poste de professeur de droit dans une fac qui avait besoin de professeur de droit et à qui on disait non, niet. En un mois, on l'a ouvert un poste rien que pour Monsieur Blanquer, qui par ailleurs va peut-être d'ailleurs laisser tomber son poste parce qu'il va venir faire le directeur du château de Versailles. Donc excusez-moi, mais ça vous laisse les bras ballants, c'est ça le nouveau monde d'Emmanuel Macron.
Ça, c'est à Versailles.
Merci Monsieur Louis Gerbier.
Ça t'agace.
On s'en fout pas qui tous les jours. Crée du débat. Dans un instant, les stations essence, la journée d'action hier initiée par l'intersyndicale, la CGT en particulier. Seulement, on a toujours certes des stations-service perturbées, mais on n'a pas eu la grande mobilisation attendue. Est-ce que la CGT est en train de perdre la partie, en train de perdre le match social? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.